Donc bonjour tout le monde. Donc comme vous pouvez le voir, cette fois-ci on enregistre donc le webinaire qui sera ensuite rediffusé donc sur la chaîne Medici donc de Canal U ultérieurement. Donc quand on le mettra en ligne, on vous enverra à tous via la liste Medici un mail pour vous informer de sa disponibilité. Alors donc moi je suis Marion Polak, donc je représente ici le GT Formation du réseau Medici qui vous propose aujourd'hui donc ce nouveau webinaire centré cette fois-ci sur l'orthotypographie en langue espagnole et portugaise. Alors donc pour rappel, hein, ce cycle de webinaire, il fait suite à une enquête hein, qui a été lancée en début d'année sur la liste Medici, donc par notre GT, sur vos besoins en formation, et vous avez été nombreux à relever l'envie hein, de revenir sur le code typographique. Donc on a eu un premier webinaire qui a eu lieu juste avant l'été sur l'orthotypographie en langue anglaise, qui était animé par Chloé Morgan des Annales. Et aujourd'hui, on continue hein, sur la lancée avec ce webinaire sur les langues espagnoles et, dans un second temps, portugaise. Donc pour rappel, hein, le but du webinaire, c'est assez simple, c'est une discussion sur un temps court, donc à peu près d'une heure, en fonction hein, de la durée des discussions et des échanges. Et l'idée, c'est de vous proposer vraiment une boîte à outils qui ne sera pas exhaustive. Hein. Ce sera, on va vous présenter un début pour après lancer la discussion. Et si jamais vous en savez plus, hein, n'hésitez pas à le dire aussi. Mais c'est vraiment l'idée, c'est d'échanger autour de nos pratiques professionnelles lorsque vous travaillez sur les textes en langue étrangère, et ce, à l'aide donc d'une retour d'expérience d'un ou d'une éditrice, donc pour le coup à chaque fois ce seront des éditrices au féminin. Donc voilà, donc aujourd'hui nous accueillons donc Loredane Saint-Blanca, qui
Bonjour.
est éditrice à l'Université Toulouse-Jean Jaurès et qui s'occupe de deux revues, donc l'Ordinaire des Amériques et Caravelle, et qui se réoccupera donc de la partie espagnole. Et dans un second temps, nous aurons Roberta Seva, qui est éditrice à la Maison des Sciences de l'Homme Paris-Nord et qui est en charge de la revue Cahiers des Amériques latines et qui s'occupera de la partie portugaise.
Bonjour tout le monde.
Voilà. Donc, comment va s'organiser le webinaire? Donc, ça sera 15, ben, à peu près 15 minutes en premier de présentation de Loredane sur la partie espagnole, puis la version portugaise par Roberta, et ensuite on fera les questions à la fin. Donc, n'hésitez pas hein, aussi au fil des échanges et des présentations à les mettre dans le chat, et après on y reviendra dessus dans la seconde partie. Voilà. Donc, si c'est clair pour tout le monde, moi je vais laisser la parole du coup à la première intervenante du jour, donc Loredane. Vas-y Loredane, la parole est à toi. Donc c'est bon, on voit bien ton PowerPoint.
Ok, donc bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je remercie Marion Polak et Flavie Lavallée du groupe de travail du réseau Médici Formation. Donc, comme l'a dit Marion, je suis éditrice des revues Caravelle et Horda qui publient des articles sur l'ère latino-américaine. Et ces revues sont publiées par l'IPEAT, dont je suis la responsable, qui est un institut qui fait de la recherche et de la formation sur les Amériques. Donc, certains points que je vais aborder dans ma présentation seront peut-être évidents pour vous, mais j'espère que d'autres non, et que j'arriverai à vous apporter quelques éclairages. Alors, j'ai souhaité commencer par un focus sur quelques-unes des différences entre l'espagnol d'Espagne et l'espagnol d'Amérique latine. Alors, dans mon cas, par ma pratique de travail, mes expériences de vie et universitaires, je maîtrise beaucoup mieux l'espagnol d'Amérique latine. Donc, tout d'abord, il y a certaines différences de vocabulaire sur certains mots. Donc, par exemple, pour dire appartement, on dira piso en espagnol d'Espagne, mais en Amérique latine, on dira departamento. Dans la prononciation, la principale différence, c'est la manière dont on prononce le C. Donc, en espagnol d'Espagne, on dira cima pour dire sommet, alors que en Amérique latine, on dira cima. On va prononcer le C avant une voyelle comme un S. Mais dans tous les cas, ces différences-là qui existent n'empêchent aucunement la compréhension. C'est comme entre le français et le canadien, on arrive à se comprendre. Au niveau de la typographie, les guillemets les plus courants qui sont utilisés en Espagne sont les doubles chevrons. Alors qu'en Amérique latine, on utilise plutôt les guillemets typographiques. Et sinon, au niveau des autres règles typographiques, ce sont les mêmes ou quasi. Donc, par la suite, tout ce que je dirai sera valable à la fois pour l'espagnol d'Espagne et pour celui d'Amérique latine. Donc, maintenant, je vais énoncer tout ce qui est différent du français. Ce que je ne vais pas aborder, c'est que c'est la même chose. Donc, par rapport au français, l'espagnol comporte des accents aigus sur toutes les voyelles pour indiquer l'accent tonique qui s'entend dans l'intonation. Donc, ils permettent de différencier des mots qui s'écrivent pareil, mais qui ne veulent pas dire la même chose. Donc, pour dire je vais seul au cinéma, je vais dire voy solo al cine. Mais si je veux dire je vais seulement au cinéma, je dirais voy solo al cine, avec je vais accentuer le premier O. Et les capitales et les majuscules sont accentuées de la même manière que les minuscules. En espagnol, il existe le tilde. C'est comme on le voit sur l'illustration, c'est un signe en forme de S couché qui se met au-dessus du N et il se prononce nieu. Donc pour dire une montagne, finalement c'est presque comme en français, on va dire una montaña. Alors, les autres différences que j'ai listées sont le double L qui n'existe pas en français. On le prononce ye, ella, virgulilla, qui veut dire tilde en espagnol. L'apostrophe n'est pas employée. Pour les deux points et le point virgule, on ne mettra pas d'espace entre le mot et la ponctuation, mais une espace après, comme on le voit dans l'exemple. C'est la partie écrite en un peu plus gros, avec les deux points collés au mot. Et en français, il y a une espace insécable. Pour les demi-quadratèmes, en espagnol, il n'y a pas d'espace, on le voit dans l'exemple, mais en français, il y a une espace insécable. Alors, en ce qui concerne maintenant les phrases interrogatives et exclamatives, elles commencent par un signe de ponctuation inversé et se terminent par le signe de ponctuation correspondant. L'avantage est que commencer par une phrase avec un signe de ponctuation inversé permet de savoir dès le début de la phrase que c'est une question ou une exclamation. Donc là, j'ai choisi deux exemples plutôt simples, avec d'abord un exemple d'erreur, puis la correction manquante. Mais ensuite, il y a beaucoup de spécificités pour l'utilisation des majuscules et des minuscules. Donc, j'ai fourni à Marion un petit texte plus précis qu'elle va mettre dans le chat ou qu'elle mettra après.
C'est bon, c'est mis.
Merci Marion. Donc est-ce que j'attends un petit peu pour que tout le monde puisse le lire ou il est dans le chat?
Il est dans le chat, donc si tu veux,
D'accord.
tu peux. Il peut servir à plus de, comment tu dis, de. En plus. Donc tu peux continuer si tu veux.
Et donc, avec toutes ces différences, on se pose la question de comment faire quand plusieurs langues sont employées dans le même texte. Donc, le parti pris pour Horda et Caravelle, je ne sais pas si vous faites pareil ou différemment, et ça m'intéresserait de savoir, mais on utilise les guillemets en usage dans la langue du texte principal. Et on utilise les normes de ponctuation de la langue à l'intérieur des guillemets. Donc, dans l'exemple, Marion a dit ceci, Mira un barco. Donc, en bleu, on est dans un texte en français, donc avec les normes de typographie en français. Mais à l'intérieur de la citation, en violet, on va utiliser les normes espagnoles avec la ponctuation inversée, pas d'espace avant les deux points, car la phrase, elle est en espagnol. Pour les résumés, chaque résumé est comme un mini-texte, donc on adopte la typographie qui correspond à sa langue. Pour l'utilisation des capitales. Donc, en espagnol, les règles pour l'utilisation des capitales, j'ai l'impression qu'elles sont plus flexibles et un peu plus simples qu'en français. Dans les titres, le premier mot du titre est toujours en capitale, quelle que soit sa fonction. C'est le premier exemple. Si un titre contient deux points ou un tiret, la première lettre du mot suivant est en capitale. Pour les articles, les propositions, les conjonctions, ils sont généralement écrits en bas de case. Donc en gros, on met une capitale uniquement au premier mot du titre et les autres mots sont en minuscules, sauf après des deux points ou des tirets. Et bien sûr, les noms propres gardent leurs majuscules. Concernant les autres cas d'utilisation, alors mon diaporama, là, il est très très loin d'être exhaustif, parce qu'il y a quand même beaucoup de différences avec le français. Donc j'ai choisi quelques exemples qui montrent ces différences. Donc c'est plus simple dans certains cas, comme là, les noms d'établissements ou les organismes, on met une capitale à tous les mots. Pour le nom des nationalités, c'est le contraire qu'en français. Et pour le nom des langues, c'est la même chose qu'en français. Donc pour dire les Espagnols, on dira los españoles avec une minuscule en espagnol et une majuscule en français. Et pour dire la langue espagnole, el español, l'espagnol, on mettra une minuscule dans les deux cas. J'ai mis un lien qui permet d'avoir les réponses précises à tous les cas de figure, tout ce qui est politique, administration, religion, culture, etc. Donc, tous les cas de figure sont si vous allez sur ce lien. Maintenant, on va parler de l'écriture des nombres. La différence principale est la ponctuation utilisée pour séparer les milliers et les centaines. Le séparateur des milliers en français, c'est une espace insécable, alors qu'en espagnol, c'est un point. Donc là, il y a l'exemple de 1000, espace insécable en français et point pour séparer les centaines et les milliers en espagnol. Alors pour le séparateur décimal en français, on met une virgule. Alors qu'en espagnol, on mettra plutôt un point. Pour l'écriture en chiffres ou en lettres, c'est la même chose qu'en français. Donc là, j'ai donné quelques exemples qui pourraient être détaillés, mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pareil. Pour les pourcentages, il faut mettre une espace insécable entre la quantité et le pourcentage. Pour les abréviations, donc on travaille tous dans des contextes très différents. Donc j'ai mis plutôt les abréviations des bibliographies qui sont communes à tous. Donc là, j'ai fait une petite liste. On peut voir parfois qu'il y a plusieurs possibilités. Quand il y a plusieurs possibilités, il y en a qui sont plus utilisées que d'autres, mais dans tous les cas, ce n'est pas incorrect. Pour l'indicateur ordinal masculin, donc par exemple l'abréviation de primero, qui veut dire premier, il est souvent confondu avec le symbole degré, qui est un cercle uniforme. Et pour ne pas les confondre, on peut mettre un point et un souligné. Mais si on nommait ce point ou ce souligné, c'est juste qu'il y a risque de confusion, mais ce n'est pas incorrect. Je trouvais intéressant de faire une diapo sur l'écriture inclusive. Donc à l'écran, vous pouvez voir les différentes possibilités et usages. Et sur ces questions, je me suis renseignée auprès d'une enseignante de l'IPEAT qui est responsable d'un réseau sur le genre. Et elle m'a indiqué qu'en Argentine, qui est son terrain de recherche, la norme la plus utilisée est le E. Donc le E comme terminaison neutre. Par contre, je ne sais pas si c'est le cas partout ailleurs en Amérique latine. Dans les textes que je reçois, il y a beaucoup de différences et l'objectif, c'est d'harmoniser. Et elle doit m'envoyer une bibliographie. Si certains d'entre vous sont intéressés pour aller plus loin, je pourrais vous la faire parvenir. Alors, je vais vous montrer les raccourcis que j'utilise sur Mac. Sur PC, je ne sais pas les faire. Et ce sont des raccourcis qui fonctionnent sur un clavier paramétré en français. Alors, je crois que ce serait laborieux de tout détailler, mais c'est écrit sur le PowerPoint qui sera transmis ultérieurement. Donc là, j'explique comment on met l'accent sur les voyelles, sur les guillemets. Comment faire le tilde du N et les ponctuations inversées. Et ensuite, bon, ça vous devez le savoir, mais dans Word, on peut créer nos propres raccourcis dans les caractères spéciaux, ce qui peut être plus pratique. Pour les codes typographiques, alors, il y a le lexique des règles typographiques en usage à l'imprimerie nationale. Donc, il y a une toute petite partie sur l'espagnol, mais elle est très claire. Ensuite, on a le Diccionario de la Lengua Española de la RAE, et principalement sa ressource en ligne. J'ai mis le lien sur la slide. Et celui que j'utilise le plus, c'est le Manual de Estilo de la Lengua Española. Qui est vraiment très complet. Donc pour nous, c'est la seconde partie qui est la plus utile et on peut trouver les réponses à nos questions via un index alphabétique qui est situé à la fin. Concernant les correcteurs, alors je sais qu'il existe Prolexy pour l'espagnol, mais malheureusement, je ne l'ai pas. Et je serais preneuse d'informations si quelqu'un pouvait les donner par la suite. Et c'est là-dessus que je termine. Merci beaucoup à tous pour votre attention et à tout à l'heure pour échanger et discuter.
Merci beaucoup, Loredan. C'était très bien, très complet. Alors, on va passer à Roberta. Et ensuite, je vois que vous avez déjà commencé à poser des questions dans le chat. On les reprendra après quand Roberta aura fait sa présentation. Comme ça, on fera un point. Point mon première intervention et après point question. Roberta, je te laisse la parole. Normalement, tu vas pouvoir partager.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Pour celles et ceux qui n'étaient pas encore là quand Marion nous a présenté, je m'appelle Roberta Sève, je suis éditrice au CNRS, un poste à la MSH Paris Nord, et je m'occupe de la publication de la revue Cahiers des Amériques latines. Je suis aussi également référente OJS au sein du pôle éditorial de la MSH Paris Nord. Je remercie également à Marion Rouillac et à Flavie Lavallée pour l'organisation de cet webinaire qui, j'espère, sera utile pour tout le monde. Bon, aujourd'hui, je vais vous présenter dans les grandes lignes les règles orthotypo du portugais du Brésil. Comme Marion vous l'a dit, nous avons que 15 minutes de présentation. Du coup, bien évidemment, mon exposé n'est pas du tout exhaustif, mais l'idée est plutôt de vous donner quelques pistes si jamais vous êtes amené à corriger un texte en portugais. Je vais maintenant essayer de partager mon écran avec vous, mon PowerPoint. C'est
Ok,
bon,
moi c'est
Émilie?
bon, je le vois.
OK. D'accord,
Bon, parfait.
nous pouvons commencer. Du coup, comme je viens de vous le dire, on va aborder plutôt les règles du portugais brésilien, qui a pas mal de différences avec le portugais du Portugal. Dans la prononciation, par exemple, pour le mot excellent, en portugais du Portugal, on va dire excelente, alors qu'en portugais du Brésil, on dira excelente. Dans l'accentuation des mots, pour le mot bébé, en portugais du Portugal, le dernier E prend un accent aigu, alors qu'en portugais du Brésil, le dernier E prend un accent circonflexe. Il y a également des différences dans l'orthographe des mots. Le mot fait, Par exemple, en portugais du Portugal s'écrit avec un C, facto, et sans C en portugais du Brésil, fato. Il y a également des différences grammaticales, comme par exemple dans les modes impératifs, pour dire passe-moi le cahier, s'il vous plaît. Je vais dire dá-me o caderno, por favor, avec le pronom placé après le verbe en portugais du Portugal. Alors qu'en portugais du Brésil, je dirais plutôt me dá o caderno, por favor, le pronom placé avec le verbe. Malgré toutes ces différences, les linguistes ne sont pas tous d'accord pour affirmer qu'il s'agit de deux langues distinctes. Et c'est bien pour cela que je dis que ma langue maternelle est le portugais du Brésil et pas le brésilien. Commençons par la ponctuation. Il faut savoir qu'en portugais, l'espace insécable n'existe pas. Du coup, les signes de ponctuation, ils sont toujours collés aux mots. Donc, il n'y a pas d'espace non plus entre les chiffres et les signes de pourcentage, comme dans l'exemple qui suit, 40%, les chiffres sont collés aux signes de pourcentage. Pareil pour les heures, il n'y a pas d'espace entre le H, les signes d'heure et les chiffres. Pour les appels de notes, il faut toujours le placer après la ponctuation, au contraire du français. Du coup, dans l'exemple qui suit, segundo o presidente Lula, a inflação está diminuindo. Comme vous voyez, l'appel de notes, il est placé après le guillemet fermant et après la ponctuation finale. En ce qui concerne les incises, on utilise les tirets demi-quadratants avec un espace avant et après. Et là, c'est pareil qu'en français. Como voyez dans l'exemple qui suit, o presidente, segundo as últimas pesquisas, está em queda de popularidade. Il y a des espaces avant et après les tirets, pardon. En ce qui concerne les guillemets, en portugais, on va utiliser les guillemets anglais doubles et les guillemets simples, ils ne peuvent être utilisés qu'à l'intérieur des guillemets doubles, comme dans l'exemple qui suit. O articulista defende, como forma de melhoria nas relações jurídicas, uma assim chamada globalização das leis. Se je veux mettre le mot globalisation entre guillemets, il faut le faire entre guillemets simple, puisque la phrase, elle est déjà entre guillemets double. En ce qui concerne la ponctuation et les guillemets, quand la phrase entière, elle est à l'intérieur des guillemets, la ponctuation finale doit l'être également. Comme dans l'exemple antérieur, vous voyez, toute la phrase est à l'intérieur des guillemets, le point final se trouve à l'intérieur des guillemets fermants. Du guillemet fermant, pardon. Par contre, si la phrase n'a pas commencé par des guillemets, la ponctuation doit être placée après les guillemets fermants. Comme dans la phrase qui suit, Napoléon disse, deux points, do alto destas pirâmides, 40 séculos vos contemplam. Là, vous voyez, la phrase n'a pas commencé par les guillemets, la ponctuation est placée après. En ce qui concerne les chiffres, en portugais, on doit écrire en toutes lettres les chiffres de 1 à 10. Du coup, 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Par contre, à partir de 11, on va utiliser les chiffres qui, comme en espagnol, sont séparés par un point à chaque millier. Du coup, 1200, 12 000, 12 millions avec le point entre les milliers. Pour le décimal, par contre, on va utiliser les virgules, comme dans l'exemple qui suit, 12,5. Le siècle. En portugais, on n'utilise pas les petites capitales. Le siècle doit être écrit en capitale, pardon. Siècle XX, siècle XVI, etc. En ce qui concerne le calendrier chrétien, on va utiliser A.C. pour avant Jésus-Christ ou bien 2.C. sans espace pour depuis Jésus-Christ. L'emploi des capitales. En portugais, on utilise un peu les capitales partout et les règles sont assez similaires à celles du français, c'est-à-dire pour les mots propres, en début des phrases, etc. Par contre, pour les institutions et les organismes, on va mettre la majuscule partout, comme dans les exemples qui suivent. Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, pour le HESS en portugais. Alto Comissariado das Nações Unidas, pour le Haut Commissariat des Nations Unies. Alliance Française, pour l'Alliance Française. Universidade Federal do Rio de Janeiro, pour l'Université Fédérale de Rio, tout en maj. Pour les événements ou périodiques historiques, c'est pareil. Idade Média pour le Moyen Âge, Renascimento pour la Renaissance, Brasil Império pour Brésil Empire, pareil, en mages partout. Il y a par contre une exception qu'il faut retenir. Il s'agit du mot Estado, État en français. Quand ces mots, il fait référence à la nation, on doit l'écrire en majuscule pour dire par exemple le Estado brasileiro ou le Estado français, on va écrire Estado en majuscule. Par contre, quand ce mot, il fait référence à l'unité territoriale, parce que comme vous le savez sans doute, le Brésil, comme les États-Unis, est un État fédéral composé des États fédérés. Si on fait référence à ces États fédérés comme o Estado do Rio de Janeiro, là, ce mot, il prend la minuscule. Par contre, en portugais, on ne capitalise pas les nationalités. Et ça, c'est une différence par rapport au français. On va dire os franceses, os brasileiros, os ingleses, os americanos, ainsi de suite. Mais pour les noms d'ethnie, on va le mettre en majuscule, ou Jnour avec un N majuscule, ou Chavante avec un X majuscule, ainsi de suite. Mais, bien évidemment, cette règle est valable seulement pour le mot, comme en français. S'il s'agit d'un adjectif, le nom de l'ethnie doit prendre des minuscules, comme dans l'exemple qui suit, muitos objetos da cultura Chavante estão expostos no Museu do Quebrelli. Chavante est ici un adjectif qui change, qui modifie le mot culture. Du coup, il prend les minuscules. En 2009, il y a eu un traité d'orthographe de la langue portugaise qui a essayé de rendre un peu moins omniprésentes les majuscules, mais dans la pratique, les deux formes sont toujours acceptées pour les exemples suivants. Pour les fonctions ou les titres civils, on accepte actuellement au presidente français avec un P minuscule ou bien au presidente français avec un P majuscule. Pareil pour le ministre des Affaires étrangères, on peut dire au ministre des Relations extérieures avec un M minuscule ou bien avec un M majuscule. Pour le discipline, c'est la même chose, on peut dire la géométrie. On peut l'écrire avec un G minuscule ou bien avec un G majuscule, les mathématiques avec un M minuscule ou M majuscule. Les deux formes sont actuellement acceptées. Même chose pour le titre de livre. On peut écrire Gabriela Cravo Canella, tout le mot en majuscule, ou bien Gabriela Cravo Canella, seulement le premier mot en majuscule. Par contre, pour les titres de périodique, on doit utiliser les mages partout. Du coup, je vais écrire Mana, Estudos de Anthropologia Social, et tous les mots prennent la majuscule. Pareil pour le nom de journaux, Journal do Brasil ou bien O Globo, deux journaux très connus au Brésil, prennent la maj partout. Mais en ce qui concerne les noms propres géographiques, on utilise les minuscules pour le nom commun d'espèces, comme dans les exemples qui suivent. Si je parle d'une rue, la Rua Barão da Torre, les noms communs d'espèces Rua, va prendre la minuscule alors que Barão da Torre, qui a un nom propre, est un mage. Pareil pour le fleuve Amazonas, Rio sera écrit en minuscule alors que Amazonas, le nom propre, en mage. Et ainsi de suite. La biblio. Comme pour l'espagnol ou le français ou l'anglais, etc., on doit essayer de respecter les normes de référencement bibliographique de la langue dans laquelle l'article a été écrit. Je sais que ce n'est pas très simple, mais si jamais vous êtes amené à corriger une bibliographie en portugais, je vous ai listé quelques pistes. On doit utiliser à la place de dire pour un directeur de publication, on va utiliser org avec un point entre parenthèses qui veut dire organisateur. Si on ne connaît pas la date de publication, on va écrire S/D entre crochets ou bien S/L entre crochets si on ne connaît pas le lieu de publication. S/N entre crochets si on ne connaît pas la maison d'édition. L'expression supresso doit être remplacée en portugais par no prelo. Et si on doit citer les pages d'une citation, pour par exemple page 4 et suivante, on va mettre le chiffre 4 suivi de SS avec un point. Dans la biblio, quand il y a plus de trois auteurs, on ne va pas citer tout le nom de famille. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va citer le premier nom de famille plus le prénom suivi de l'expression en latin et al avec un point, mais pas d'italique pour et al. Si on doit citer un document qui a été consulté sur Internet, on va écrire la citation complète et à la fin, on va mettre disponível em, suivi du lieu d'accès Internet. Et on va terminer par acesso em pour citer la date de consultation du document. Et pour abrévier numéro, en portugais, on le fait comme ça, le N avec un O en exposant. En ce qui concerne l'écriture inclusive, il faut savoir qu'au Brésil, il n'y a pas encore une réglementation concernant l'écriture inclusive, même si elle est assez répandue, surtout dans le milieu universitaire, avec l'utilisation préférentielle de la lettre E neutre pour remplacer le O et le A, qui sont des marqueurs de genre masculin et féminin, respectivement, à peu près. Pareil qu'en espagnol, comme vient de dire Loredan, on va utiliser par exemple le mot todes avec un E pour remplacer todos et todes. Néanmoins, il y a aussi beaucoup de personnes réfractaires à cette utilisation, bien entendu, dans le milieu de l'extrême droite brésilienne. Pour terminer, je vous ai listé quelques sources de consultation, comme le vocabulaire orthographique de la langue portugaise pour des questions d'orthographe, qui est disponible sur le site de l'Academia Brasileira de Letras. Vous avez le lien ici. Un dictionnaire très complet, le dictionnaire UAIS, également disponible en ligne, mais malheureusement qui est payant. Une grammaire, la grammaire grammatica Faro, Kumori et Marucho de la maison d'édition Attica, qui n'est pas disponible en version numérique, mais qui peut être facilement trouvable, sa version imprimée sur Internet. Et également, je vous ai fourni une liste non exhaustive des abréviations plus utiles et plus courantes en portugais, disponible sur le site de l'Academia Brasileira de Letras, dont le site est mentionné ici. Et je termine ici. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je suis bien évidemment, pardon, disponible pour répondre à vos questions s'il y en a.
Merci beaucoup Roberta. Ça complète en vrai très bien du coup la présentation de Loredan, parce qu'on voit qu'il y a quand même il y a des similitudes, mais il y a beaucoup de différences aussi. Alors, je veux dire, la similitude sur l'écriture inclusive, oui. Après, le reste, quand même, c'est pas la même langue, quoi. C'est pas les mêmes règles non plus. Alors, je vous propose de faire le point donc, sur les questions qui ont été posées. Donc, du coup, on va recommencer. Bah, vu que c'est par ordre chronologique et par ordre, on va dire plutôt d'heure. Loredan, il y avait une question pour toi pour les règles que tu utilises pour les siècles. Parce qu'on l'a vu donc en portugais, les siècles sont écrits en capitale et pas en petite capitale. Mais en espagnol, est-ce que c'est pareil ou est-ce qu'il n'y a pas de règles? C'est plutôt petite capitale ou grande?
Alors, c'est que comme en français, on utilise
Ouais.
les petites capitales.
Ok. Donc petite capitale pour les siècles. Ensuite, j'avais une autre question, c'était l'abréviation de numéro est-elle suivie d'une espace insécable? Je pense que c'était pour toi, Loredan, vu que c'était juste après, c'était au moment de ta présentation.
Je dirais que oui, mais j'ai un doute, donc peut-être que les collègues présents pourront confirmer ou contredire.
Donc, à voir.
Moi, je dirais que oui.
J'en profite. Je trouve que justement, l'abréviation numéro en espagnol, elle est compliquée, on voit un peu tout. Ça nous arrive de voir un N exposant point ou un N O sans exposant point. Et je sais, donc moi, j'ai pris l'habitude de mettre toujours un insécable, mais c'est surtout sur le O point ou pas point, ou je ne sais pas trop dans quel cas faut le mettre ou pas.
Alors, la plus conventionnelle, c'est le N point avec le O en exposant. Mais le N avec le O en exposant et n'est pas incorrecte. Elle est juste aussi. Moi, je sais que comme j'ai beaucoup de textes en français, à peu près moitié espagnol et moitié français, pour harmoniser, je préfère le N exposant. Comme ça, c'est la même chose sur tous les articles. Et pareil pour page. On peut mettre p point ou page point. Et comme en français, c'est p point, ben partout, que ce soit en espagnol ou en français, je fais comme ça. Et en plus, c'est plus court. Donc, ça permet dans les notes de bas de page et les bibliographies que ça soit un peu moins dense.
Merci.
Merci beaucoup, Loredan. Alors, j'avais une question, je pense que c'est pour vous deux, c'est Roberta, Loredan. C'est comment vous allez gérer la question de l'accessibilité avec l'écriture inclusive? Grande question.
Je peux commencer si Roberta est d'accord. Alors, nous, dans la revue, on est très sensible aux questions d'accessibilité, mais c'est un chantier auquel on ne s'est pas encore attelé. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine contradiction, je trouve, parce que finalement, l'écriture inclusive, elle vient compliquer l'accessibilité. Et voilà. Donc, je ne peux pas vous en dire plus parce que moi-même, je me pose les mêmes questions.
Ouais. Et Roberta, peut-être au niveau portugais, est-ce que c'est pareil?
Oui, en fait, je me joins à la réponse de Loredan. On est en train encore de réfléchir à ça. C'est vrai que même pour les cahiers des Amériques latines, on n'a pas encore défini les règles pour l'écriture inclusive, sachant que, par exemple, en espagnol, on publie pas mal en espagnol, pas beaucoup en portugais. Sachant qu'en espagnol, d'un pays à un autre, comme nous a montré Loredan, ça change. Du coup, on est encore en train de discuter déjà de l'écriture inclusive. L'accessibilité, c'est un deuxième chantier qu'on n'a même pas encore commencé à attaquer. Mais c'est sûr que cette question, elle est intéressante parce que c'est vraiment quelque chose à... ça donne matière à réflexion. On n'a pas la réponse encore. C'est vrai que ça complique l'accessibilité.
Ouais, c'est sûr. Ouais. J'avais une dernière question donc pour Loredan, pour l'espagnol. Quelle règle s'applique-t-elle pour le placement des appels de notes?
Mais c'est le contraire qu'en portugais, la ponctuation se met avant l'appel de notes. Donc, c'est comme en français. Et si mes souvenirs sont bons, dans la présentation de Chloé en anglais, c'était après. Donc, ça voudrait dire, si je ne me trompe pas, que pour le portugais et l'anglais, l'appel de notes est après la ponctuation. Et que pour le français et pour l'espagnol, l'appel de notes est avant.
Ouais, c'est ça. Après, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat ou à prendre la parole directement si vous voulez. Moi, j'avais une question donc sur les présentations. Est-ce qu'on pourra avoir les PowerPoint et les supports après? Donc moi, c'est moi qui vais répondre. C'est une question pour moi. Donc oui, donc le webinaire est enregistré et sera rediffusé sur la chaîne Canal U de Medici. Et les PowerPoint et les supports, donc de l'espagnol, du portugais et de l'anglais, seront après disponibles et mis en ligne. Donc, vous aurez le lien de tout. Dès que ça sera fait, on enverra un mail sur Alice Médici et vous serez tous au courant. Voilà. Ça sera fait ultérieurement après les webinaires. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Hop là. Voilà. Comme ça vous permettra de récupérer tous les liens et tous les outils qu'ont donné Loredan et Roberta. Donc, notamment sur les dictionnaires, sur tout ce qu'il faut pour les capitales. Surtout en portugais, on a vu, il y a plein de règles différentes pour l'utilisation des capitales, c'est très compliqué. Je dis, ça peut être facile.
En fait, en portugais, c'est simple aussi. Comme je vous ai dit, il y a le traité qui a essayé de un peu uniformiser, mais comme on a une tradition de mettre les capitales partout, c'est encore accepté le capital partout. Alors, si vous avez un doute, il vaut mieux capitaliser, parce qu'en portugais, on met les capitales partout.
Ok, mais du coup, toi, dans la revue, t'appliques pas du coup la règle de la loi de 2009, quoi.
Bah, j'essaye d'appliquer la règle de 2009, mais en fait, les deux formes, elles sont acceptées.
Ok.
Parce que le
En fait, tu fais en
traité.
fonction de l'auteur, si l'auteur, il a mis.
Tout à fait, oui, c'est en fonction de l'auteur s'il a mis tout un capital là où on peut accepter les deux formes, bah, je suis ce qu'il a fait.
Ok, parfait. Je vois qu'il y a Anushka Grigelmans, ou Mans, excusez-moi pour l'orthographe, qui demande si est-ce que peut suggérer un ouvrage. Bah, tout à fait, sauf que vous pouvez prendre la parole ou aussi l'écrire dans le chat.
Non, enfin, je peux vous le montrer là.
Ouais, parfait.
Je ne sais pas si.
Ah,
Oh,
oh,
j'ai
là, il y a
une
le
image qui
côté.
floute. Voilà.
Ouais.
Je ne sais pas si vous le voyez là.
Là, oui, c'est bon, là.
OK, donc voilà, ça c'est la partie.
Là, c'est fouté aussi.
Je vais vous l'écrire dans le chat.
Oui,
Hein.
écrivez-le.
Ça s'appelle le guide du typographe. C'est édité à Lausanne par l'éditeur AST. Ce qui est bien dans ce bouquin, c'est que c'est bon, c'est les règles de typographie française, de langue française. Mais au milieu, je ne sais pas si vous le voyez là, il y a une partie qui est verte. Dans la partie verte, il y a vraiment, c'est les basiques, hein, vraiment les basiques des règles typographiques espagnoles, allemandes, italiennes, espagnol, allemand, italien.
Portugais peut-être ou pas?
Non, il n'y a pas portugais malheureusement. Il y a l'allemand, l'anglais, l'italien et l'espagnol.
Ok.
Et c'est vraiment les règles de base. Hein. C'est loin d'être exhaustif, mais c'est un bouquin qui peut vraiment dépanner. Il est très cher malheureusement.
J'avais demandé s'il était disponible en ligne ou
Il est
uniquement
disponible en ligne. En ligne, non. Le PDF n'est pas disponible en ligne. Non, il faut l'acheter. On peut l'acheter en
Ok,
ligne,
donc
mais
acheter.
il est vraiment très cher, malheureusement. Mais c'est un bouquin qui, moi, m'a dépatouillé plus d'une fois.
Ok, ça marche. Bah, je veux bien
Je
que
peux
vous...
vous l'écrire.
Ouais, parfait. Ouais. Merci beaucoup. J'ai une question pour Loredan. Est-ce qu'on fait la différence entre l'espagnol et le catalan?
Alors, j'ai jamais été confrontée, j'ai jamais reçu de texte en catalan parce que je travaille plutôt avec des auteurs et des autrices d'Amérique latine. Mais c'est une question très pertinente. Donc peut-être que des collègues ont la réponse, mais bon, je dirais que pour le catalan, on utilise les mêmes règles qu'en espagnol, mais c'est une question de logique que j'utiliserais.
Ouais, c'est plus l'orthographe qui aurait tendance à changer et pas les mots
Oui,
utilisés.
c'est une autre langue, le
Ouais, c'est
catalan.
ça. Et pas les...
Ouais. Mais on imagine que comme la Catalogne n'a pas encore réussi à être indépendante de l'Espagne, j'imagine que les règles doivent être pareilles au niveau.
Ils n'ont pas pris l'indépendance encore non plus sur les espaces orthographiques.
L'indépendance typographique n'est pas encore faite non plus, j'imagine. C'est plutôt logique que les règles soient les mêmes, mais bon, c'est juste une hypothèse. Hein. Je ne peux pas répondre non plus.
Merci beaucoup Anouchka donc pour le lien dans le chat donc où tout le monde peut voir donc c'est les règles de l'art typographique ouais. Hop là. Parfait. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions qui là arrivent dans le chat ou à l'oral si vous voulez prendre la parole aussi.
J'en profite.
Oui, allez-y.
J'avais une petite question un petit peu technique et peut-être que c'est juste une question de pratique et que tout le monde pourra répondre. C'est quand vous utilisez la chaîne Métop, vous conseillez de renseigner quelle langue? Parce que par exemple, peut-être pas pour l'espagnol, je crois qu'il n'y a qu'une occurrence, mais je crois que pour le portugais, il y a justement ces différences entre portugais du Brésil, portugais du Portugal. Et du coup, par exemple, si vos revues comme les miennes sont sur les Amériques latines, on se dit qu'on part sur le portugais du Brésil, c'est plus logique.
Bah oui, c'est le portugais du Brésil que tu dois cocher, bien sûr.
Merci.
Et du coup, Loredan, toi, pour l'espagnol, je n'ai jamais vu utiliser. Donc, il n'y a qu'un espagnol, du coup, aussi, ou il y a plusieurs possibilités?
Alors, pour Lorda, on n'utilise pas la chaîne Métop. Et pour Caravelle, oui, il me semble qu'il n'y a qu'une seule possibilité, c'est ce que disait Mélanie,
Okay.
que la question ne se pose pas.
Ça se pose que pour le portugais. Ok. D'autres questions? Hop là. Bon, après, on a fait le tour. C'est vrai que vos présentations étaient quand même assez complètes, avec qui revenaient sur plein de points, donc c'est vrai que c'est très bien. Hop là.
Et je pensais qu'il y avait plus de similitudes entre le portugais et l'espagnol.
Moi
Donc,
aussi.
je pense que c'est très différent.
Parce que c'est vrai qu'on en discutait au départ, vous disiez que ça allait beaucoup se compléter en fait. Et je trouve que ça ne se complète pas du tout, ça se sépare plus que ça se complète. Donc finalement, c'est...
Ça n'aura pas été redondant, ouais, ce que vous
Non,
dites.
et non, pas du tout, ça s'est bien goupillé finalement. Très bien. Donc bah, écoutez, s'il n'y a plus de questions, je pense qu'on peut s'arrêter là. De toute façon, donc, tout sera redisponible sur, voilà, plus tard sur les sites de Medici, donc soit sur la chaîne Canal U pour le webinaire qui est enregistré. Soit donc sur les PowerPoints qui seront rediffusés. et qui seront donc tous disponibles. Voilà, donc on vous informera, ce sera fait bientôt. En attendant, je vous remercie donc déjà, je voudrais remercier Roberta et Loredan d'avoir accepté aujourd'hui de participer et d'intervenir. C'est pas un exercice facile, mais vous en avez très bien tiré. Et franchement, c'était très. Moi, j'ai trouvé ça très bien. Voilà. Et je pense que tout le monde aussi, vu tous les commentaires que vous avez pour vous dans le chat. Donc, sur ce, je pense qu'on peut se dire au revoir. Donc, je dis
Ouais,
au revoir à
bravo, hein,
tout le monde.
vraiment.
Merci à vous d'être venus nombreux aujourd'hui. Et à bientôt, peut-être, pour un prochain webinaire. Donc, soit sur ce cycle-là, soit sur. On va voir en fonction de si vous voulez qu'on continue, s'il y a des demandes sur l'allemand ou sur l'italien.
Ah oui, sur l'allemand, ça serait bien.
Voilà.
Et
Donc,
l'italien
on va
aussi,
voir.
et le russe, et ah ouais, mais c'est vraiment super, hein,
Oui, après,
vraiment.
on peut le
Bravo et
faire sur
merci.
plein de langues. Ouais. Voilà. Donc, je dis bon appétit à tout le monde, finalement, et bonne fin de journée.
Oui, pareillement et excellent week-end.
De même. Au
Merci.
revoir.
Merci à toutes et à tous pour votre participation aussi.
Merci.
Merci. Au revoir.
Au
Merci
revoir.
beaucoup. Au revoir.
Merci.